Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 21 novembre 2024. Au Sénégal, le parti au pouvoir remporte plus des trois quarts des sièges de députés. Au Mali, le général Abdoulaye Maïga, nommé Premier ministre, a présenté un nouveau gouvernement.
Nous devons nous donner la main pour sortir le Mali de la crise qu'il traverse. Il faut que chacun mette en avant l'intérêt du Mali.
Le Burkina Faso gèle les avoirs de plus de 100 personnes, dont l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba, pour financement du terrorisme. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense et le chef de la branche armée du Hamas. À la COP29, tractation effrénée avant la fin de la rencontre sur le climat à Bakou. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le parti au pouvoir au Sénégal a remporté plus de trois quarts des sièges de députés aux législatives de dimanche, indiquent les résultats nationaux provisoires publiés ce jeudi, qui confirment son raz-de-marée électoral. Le point avec Alexandre Nourignon.
En effet, Jean-Roger, le parti PASTEF a gagné 130 des 165 sièges en jeu et obtient l'écrasante majorité qu'il réclamait pour appliquer son agenda de rupture et de justice sociale, selon les chiffres communiqués par la Commission nationale de recensement des votes. Ces chiffres seront définitifs une fois proclamés par le Conseil constitutionnel, qui pourra le faire sous 5 jours. La majorité absolue pour le parti PASTEF devrait favoriser la mise en œuvre par l'exécutif du projet qu'il a porté au pouvoir il y a 8 mois. L'exécutif entend mener une transformation systémique, cohérente et pragmatique du Sénégal, a dit le président Bassirou Diomaye Faye en Conseil des ministres. Il a affirmé la nécessité de traiter les urgences économiques et sociales comme la cherté de la vie et le chômage, tout en relançant l'économie, notamment dans les secteurs moteurs de l'agriculture, de l'élevage, du tourisme, des mines et des hydrocarbures. Les Sénégalais attendent donc maintenant que leur gouvernant allie la parole aux actes.
Merci Alexandrine. Direction le Mali, anciennement ministre de l'administration territoriale et premier ministre intérimaire, le général de division Abdoulaye Maïga est désormais le premier ministre du Mali. Il a été nommé ce jeudi et a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement moins de 24 heures après le limogeage de Choguel Koukala Maïga. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Les généraux du corps d'armée, Sadio Camara et Ismaël Ouagé, gardent respectivement leur portefeuille de ministre de la Défense et de la Réconciliation. Abdoulaye Diop et Alphoussine Sanou restent à leur poste de ministre des Affaires étrangères et des Finances. La promotion de l'emploi et la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille enregistrent l'entrée de 2 femmes à la place de 2 femmes. Oumou Sall Seck, ancienne ambassadrice du Mali en Allemagne, hérite du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Au ministère de la Culture, Andogoli Guindo cède son fauteuil à Mamou Dafé, le promoteur du Festival sur le Niger à Ségou, l'un des plus grands festivals de la sous-région ouest africaine. Innovation dans cette équipe de 28 ministres, un poste de ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Le régime militaire du Burkina Faso voisin a décrété aujourd'hui le gel pour 6 mois renouvelables des avoirs de plus de 100 personnes, dont l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba et de 2 groupes djihadistes pour financement du terrorisme. Parmi les 113 personnes visées par l'arrêté, plusieurs dizaines, toutes de nationalité burkinabé. Certaines sont condamnées et purgent leur peine, voient leur bien gelé pour association de malfaiteurs terroristes, assassinat terroriste ou détention illégale d'armes à feu. L'ancien numéro 2 des services de renseignement, le commandant Sékou Ouédraogo, et d'anciens ministres comme le général Djibril Bassolé et Alpha Barry, fondateur du groupe de presse Omega Media, tous deux en exil, sont aussi visés par l'arrêté ministériel. Les forêts tropicales du bassin du Congo, région considérée comme le 2e poumon de la planète après l'Amazonie, diminue de 1 à 5% par an en raison de l'exploitation forestière et minière et illégale, selon une étude du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, alors que 30% de la couverture forestière régionale a disparu depuis 2001. Cette dégradation menace les moyens de subsistance de millions de personnes dépendant des ressources de ces forêts et pèse sur son rôle régulateur dans le cycle des pluies de l'Afrique. Le processus de séquestration de carbone, indique ce rapport publié en novembre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ancien élu républicain de Floride, Matt Gaetz, choisi par Donald Trump comme ministre de la Justice, a annoncé aujourd'hui renoncer à ce poste après une semaine de controverses suscitées par ce choix. Donald Trump a entériné son retrait, lui exprimant sur son réseau Truth Social son respect pour cette décision et lui promettant un bel avenir. Le choix de Matt Gaetz pour le stratégique ministère de la Justice avait provoqué des remous, à la fois en raison du caractère très controversé du personnage et de son manque d'expérience juridique. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas Mohamed Deif pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les précisions de John Lydon.
La décision de la CPI limite théoriquement les déplacements de Benjamin Netanyahou puisque n'importe lequel des 124 États membres de la Cour serait obligé de l'arrêter sur son territoire. Le gouvernement israélien a aussitôt accusé la CPI d'avoir perdu toute légitimité avec ses mandats d'arrêt qualifiés d'absurdes et d'antisémites. Le Hamas, lui, a salué l'émission de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, la qualifiant d'étape importante vers la justice. La CPI accuse Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La CPI a par ailleurs émis un mandat d'arrêt contre Mohamed Deif, chef de la branche armée du Hamas palestinien. Ces mandats d'arrêt ont été classés secrets afin de protéger les témoins et de garantir la conduite des enquêtes, a déclaré la Cour. Mais elle considère qu'il est dans l'intérêt des victimes et de leurs familles d'être informées de l'existence des mandats.
L'Ukraine a accusé aujourd'hui la Russie de l'avoir frappée à l'aide d'un missile balistique conçu pour emporter des têtes nucléaires, un premier usage de ce type d'armement en conflit dans l'histoire qui, même sans charge atomique, constituerait une escalade sans précédent de la guerre et des tensions russo-occidentales. Washington parle d'un missile expérimental de moyenne portée. Vladimir Zelensky a estimé pour sa part que ce tir était en tout cas l'acte d'un voisin fou qui utilise l'Ukraine comme terrain d'essai militaire. Dernière phase des négociations aujourd'hui du montant de l'aide financière à la COP29. L'échec n'est pas une option, a affirmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a exhorté les négociateurs à réaliser un effort majeur pour aboutir à un accord à Bakou. Alexandrine Ollognon.
Nations riches et en développement sont entrées dans les négociations ce jeudi avec une demande plus précise du groupe des pays du G77 plus Chine. Le représentant de cette alliance de 134 pays du Sud a réclamé à l'Union européenne, au Japon ou aux États-Unis au moins 500 milliards de dollars de financement par an pour le climat d'ici 2030. Aucun chiffre ne figure dans le projet de texte publié jeudi matin par la présidence azerbaïdjanaise du sommet. Une nouvelle version est attendue dans la soirée avec cette fois des montants, a promis la présidence de la COP. Nous sommes franchement profondément inquiets du déséquilibre flagrant du texte, a déclaré l'émissaire américain John Podesta. Le commissaire européen a lui dénoncé un travail inacceptable en l'état. La Chine, acteur important pour trouver un équilibre entre les pays développés et ceux en développement, a appelé toutes les parties à se retrouver à mi-chemin.
La Chine a rejeté aujourd'hui sur les États-Unis la responsabilité de l'absence de rencontre entre les ministres de la Défense des deux pays cette semaine après que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a qualifié l'absence de Pékin de regrettable. Pékin affirme que la responsabilité incombe uniquement à la partie américaine. Plusieurs médias américains ont rapporté que Lloyd Austin espérait rencontrer son homologue chinois, Dong Yun, lors d'un sommet régional au Laos dans le cadre de leurs efforts pour maintenir le contact entre les armées des deux superpuissances. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Les arrivées de cacao classé et sulé au Ghana ont atteint 182 937 tonnes au 7 novembre, une hausse de 49% par rapport à la même période de l'an dernier. Ce cacao, contrôlé et prêt à l'exportation, reflète une dynamique positive pour la saison, avec une production totale prévue à 650 000 tonnes, d'après le Conseil ghanéen du cacao. Le président kényan William Ruto a annulé la procédure de passation de marché pour l'agrandissement de l'aéroport principal du pays, ainsi qu'un contrat de plus de 700 millions de dollars avec une filiale du groupe indien Adani pour la construction de lignes électriques. Ces décisions mettent fin aux projets impliquant le groupe Adani dans ses secteurs stratégiques. Pour terminer, la Grande-Bretagne a imposé pour corruption une interdiction de voyager et un gel de ses avoirs contre Isabelle Dos Santos, milliardaire angolaise et fille de l'ancien président José Eduardo Dos Santos. Elle est accusée d'avoir détourné plus de 50 millions de livres chez Sonangol et plus de 300 millions de livres sterling chez Unitel, deux entreprises angolaises qu'elle dirigeait. Isabelle Dos Santos rejette ces accusations, les qualifiant de vendetta politique. Mais en septembre, elle a perdu un appel pour annuler un gel de 580 millions de livres ordonné par la justice britannique.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Tour d'Europe des stades, pas de droit à l'erreur pour Manchester City en Angleterre.
La forteresse Manchester City, quadruple championne d'Angleterre et tenante du titre, a été fragilisée avant la trêve par deux défaites coup sur coup et même quatre d'affilée en ajoutant la Ligue des Champions et la Coupe de la Ligue. Le calendrier n'a pas fait de cadeau à Pep Guardiola et ses joueurs opposés samedi à l'inconstant Tottenham, capable du meilleur comme du pire. Les Citizens n'ont plus le droit à l'erreur. Liverpool, qu'ils affrontent la semaine prochaine à Anfield, compte 5 points d'avance avant d'aller dimanche à Southampton, lanterne rouge, avant la 12e journée. Samedi à Leicester, les Blues de Chelsea tenteront de conserver leur 3e place. Les Gunners d'Arsenal en embuscade se frotteront dans la foulée à Forest, le surprenant 5e. Battu seulement pour la 2e fois de la saison, juste avant la trêve. Manchester United lance l'air Ruben Amorim. Dimanche à Ipswich, promu et actuel premier non relégable, le nouvel entraîneur portugais récupère Darren Davis à la 13e place, mais avec seulement 4 points de retard sur le podium.
En Espagne, le FC Barcelone aura à cœur de reprendre sa marche en avant à Vigo.
Battu sur la pelouse de la Real Sociedad 1-0 juste avant la trêve internationale, le FC Barcelone se doit d'effacer à Vigo cette contre-performance pour éviter de voir le Real Madrid se rapprocher de la tête. Si le leader pourrait compter sur le meilleur buteur de la Liga, 14 buts, Robert Lewandowski, il devra en revanche se passer des services de son prodige Lamine Yamal, blessé à la cheville droite. Le Real, le deuxième à 6 points de son grand rival, se rend à Leganés où Kylian Mbappé, absent pour le 2e mois consécutif en équipe de France et sans but depuis 4 rencontres, sera encore une fois particulièrement scruté.
Italie, AC Milan, Juventus pour ne pas lâcher prise.
C'est le plus ancien choc du championnat d'Italie dont la 211e édition affiche de la 13e journée a lieu samedi à San Siro. L'AS Milan reçoit la Juventus Turin. 7e à 8 points de la tête, à 6 de leurs adversaires du jour. Avec toutefois un match en moins, les Rossoneri, 18 points, n'ont plus le choix et doivent s'imposer s'ils veulent encore croire au titre. La Juve, 6e, 24 points, n'a toujours pas perdu cette saison en championnat, mais à force de collectionner les nuls, 6 au total, Thiago Motta commence à inquiéter les supporters piémontais. Le leader Naples, 26 points, reçoit dimanche l'AS Rome, 12e, 13 points pour le retour sur le banc romain de Claudio Ranieri, 73 ans et 3e entraîneur cette saison des Giallorossi.
Page des sports VO Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, moins de 24 heures après le limogeage du Premier ministre Choguel Koukala Maïga et de son gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a pris sa place et vient de former son propre gouvernement qui va s'attaquer aux attentes que les Maliens expriment au micro de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Le limogeage de Choguel était prévisible. Depuis 2 ans, chacun va avec son idée que du jour au lendemain, il va être limogé. Mais bon, cette limogeage est arrivée suite à mon avis, à un malentendu entre les plus hautes autorités et la primature. Choguel Koukala Maïga, qui ne se sent pas vraiment à hauteur de ses fonctions.
Moi, je ne pense pas si son départ peut changer ou quelque chose, mais néanmoins, en tout cas, il a fait des sommets, il faut reconnaître qu'il a fait quelque chose. Même s'il a fait beaucoup de raids, il faut reconnaître aussi qu'il a fait quelque chose de sérieux. Donc vraiment, nous demandons à la transition de former vite un gouvernement parce que le pays n'attend pas, parce que les défis sont énormes.
Il ne partageait plus la même vision que les autorités militaires. Dès lors, son départ était devenu inéluctable. Si donc son départ peut contribuer à changer quoi que ce soit, c'est une bonne chose pour la suite de la transition. Je souhaite vraiment que les autorités prennent en compte le coût de la vie et le problème de l'électricité. Je suis menuisier, mais je passe toutes mes journées assis car il n'y a pas de courant, alors que je ne parviens à subvenir à mes besoins qu'à partir de ce travail.
Nous devons nous donner la main pour sortir le Mali de la crise qu'il traverse. Il faut que chacun mette en avant l'intérêt du Mali.
Et l'attente à l'endroit de lui, c'est un peu le rassemblement. Parce que son successeur, qui est le docteur Choguel Koukala Maïga, a un peu failli dans le cadre du rassemblement, que ce soit la classe politique, que ce soit les leaders d'opinion. Il a manqué d'éthique dans les rassemblements. Et aujourd'hui, c'est le rassemblement qu'on souhaite du général Abdoulaye Maïga.
Mohamed Danyoko en direct de Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, il n'existe pas de manuel de gestion des accidents médicaux, encore moins de données officielles sur l'ampleur du phénomène. Et pourtant, les plaintes liées aux accidents médicaux sont de plus en plus fréquentes et tournent parfois au drame lorsque des familles affligées usent de violence sur les professionnels de la santé. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julenta.
Suite à la prescription de 2 médicaments par un jeune médecin de l'hôpital privé dans le 4e arrondissement de Yaoundé, l'état de santé d'un patient septuagénaire s'est dégradé, faisant crainte de pire. Témoigne sous anonymat le fils du patient en question.
Pour 3 jours de consommation de ces 2 produits-là, le malade a commencé à faire les effets secondaires de tension urinaire, somnolence extrême, fatigue extrême, perte de conscience. Après 3 jours, j'ai revu le même médecin qui a modifié sa prescription. Sauf que malheureusement, les effets secondaires ont persisté. Ont persisté sur pratiquement, nous sommes actuellement à la 3e semaine. Le médecin, il a juste dit, bon, c'est vrai que le médicament était fort, je vais modifier la prescription.
D'autres familles ont perdu des leurs, des suites d'accidents liés à des soins médicaux. Gilbert évoque le cas de son neveu, trentenaire, inhumé la semaine dernière.
Mon neveu qui a subi 2 opérations, mais qui ont été malheureusement soldées par des erreurs médicales au niveau du dos. La conséquence, c'est que pendant le restant de ses jours, mon jeune neveu a été obligé de passer ces temps-là étant alité. Il ne pouvait plus s'asseoir. Le comble, c'est quoi? C'est que les médecins se sont simplement arrêtés à faire le constat de ce que c'est une erreur. Comme si cette erreur était une erreur comparable, c'est pas moi, à un ballon de football qu'on a percé.
La famille n'a pas porté plainte. Depuis 1 an, Dr Arlette Francine Nomo est experte médico-légale et sur les saisines sur les accidents médicaux pour l'Ordre national des médecins du Cameroun.
Du côté médical, il faut essayer de voir avec le corps médical de cette structure sanitaire par rapport à ce malade, ce qui s'est passé et essayer de voir comment on peut réparer. Surtout s'il y a des gens morts d'homme ou alors s'il y a eu des lésions qui sont irréparables. Comment est-ce qu'il faut réparer? Est-ce qu'il faut réparer à l'amiable? Est-ce que la famille peut porter plainte pour aller en justice? On va essayer de reconstituer les faits et de tirer une conclusion. Maintenant, si on est sollicité par le patient, c'est-à-dire la famille du patient, on va essayer également de reconstituer les faits. Maintenant, s'il y a un accident médical, on va ressortir maintenant les préjudices pour qu'il y ait une réparation.
Seulement, le Cameroun ne dispose pas encore de registre national sur les accidents liés aux soins de santé. Professeur Eric Etouken Sémé, président de la Société Savante de Médecine et expectable du Cameroun.
Il n'y a pas de jour qui se passe sans que des patients se plaignent ou à la télé ou à la gendarmerie d'un problème, d'un incident survenu dans les hôpitaux. On va donc dire que c'est un phénomène de plus en plus récurrent. Et nous voulons déjà rappeler ce que c'est qu'une faute médicale qui est préjudiciable, l'erreur qui entraîne une indemnisation et l'aléa pour laquelle nous ne serons pas poursuivis.
Au ministère de la Santé publique, la meilleure gestion des accidents médicaux est prise comme une action primordiale pour établir la confiance entre les professionnels de santé et les usagers. Professeur Louis-Richard Ndjok, secrétaire général du ministère de la Santé publique.
Certains praticiens affichent un comportement en déphasage avec la déontologie professionnelle. Les actes sont guidés par des intérêts pécuniaires qui posent parfois des indications chirurgicales sans objet. Ceux-là n'ont rien à faire dans le système de santé. Avec l'accompagnement des autres professionnels, nous devons tous veiller à ce que le mauvais grain soit séparé du bon.
Les autorités camerounaises envisagent l'élaboration des manuels de gestion des accidents médicaux et la désignation des médiateurs médicaux pour trancher les cas sans toutefois recourir à la justice. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, le secteur informel vit en ce moment une période de crise due au déguerpissement. Plusieurs commerçants ont dû plier bagages dans les rues d'Abidjan sous la pression d'une brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain. Livrés à eux-mêmes et sans emploi, ces commerçants représentent toutefois un maillon important pour l'économie ivoirienne. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenio.
Nous sommes à Yopougon, dans le nord d'Abidjan. Ces commerçants du quartier de Siporex quittent précipitamment leur lieu de commerce avant l'arrivée des bulldozers. Ils n'étaient pas censés occuper cet espace, car beaucoup trop dangereux en raison de la présence de pylônes électriques. Benjamin Zabzoré, adjugeant brigade de lutte contre le désordre urbain.
Vous-même, vous constatez par vous-même que vraiment l'opération se déroule très bien. Voilà, ça se déroule très bien. Vous avez vu qu'on a commencé depuis le feu sable jusqu'à Gabriel Gare ici, il n'y a pas eu de résistance, ce qui veut dire que la population même adhère. Et les gens sont pour, sont d'accord, parce que c'est une zone qui a été déguerpie par plusieurs fois par la mairie de Yopougon. Voilà, ils n'ont pas pu vraiment éradiquer ce coin et ils étaient obligés de solliciter le ministre gouverneur.
Il n'y a pas eu de résistance, mais les commerçants de Yopougon sont très inquiets. Ils ont eu vent des résistances qui ont eu lieu dans la commune d'Adjamé et qui ont conduit à des pertes en vie humaine. Cette fois-ci, ils plaident pour que le district autonome d'Abidjan les relocalise très rapidement. Alimata Kone, commerçante à Yopougon.
On n'a pas de place, on n'a qu'à chercher solution pour nous. Cassé là, les enfants sont là, ils vont à l'école. Hein? Il y a beaucoup même, les maris ne travaillent pas. C'est nous-mêmes qui fait ici, et puis à la maison, on nourrit.
Kofi Amouira, commerçante à Yopougon.
Pardon, papa. Faut nous aider. Faut nous mettre quelque part. Pardon. Dieu va te sauver. Pardon, pour nous sauver. Ils ont cassé ma maison. Je n'ai pas encore de maison. Pardon. Il est débrouillé aussi pour manger là. Je ne sais pas comment il est fait. Pardon, papa.
Avec cette vague de dégarpissement, les relations sont plutôt tendues entre les Ivoiriens et le district autonome d'Abidjan. Beaucoup n'apprécient pas les méthodes de dégarpissement qui sont employées et regrettent le fait qu'il n'y ait pas de dédommagement ou de relocalisation. Soumaoro Ahmed, membre de la société civile et habitant de Yopougon.
En fait, elles ont accepté de partir parce que tout le monde sait qu'être en bas de haute tension, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais comme il n'y a pas de site actuellement pour eux, et pourtant le nouveau marché en construction, c'est pas encore fini. Donc elles seront obligées de rester au bord des bordures pour se défendre en attendant jusqu'à le 1er janvier. Donc tous les soucis actuellement, c'est quoi? Comment faire le décembre? Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est le seul mois où tout le monde se défend normalement.
Les commerçants, dont la plupart sont dans le secteur informel, constituent un maillon important de l'économie ivoirienne. Selon les dernières estimations, 90% d'Ivoiriens travaillent dans le secteur informel, qui représente près de 40% du produit intérieur brut du pays. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a annoncé sur son réseau social Truth que Tom Homan est son choix pour occuper le poste de star de la frontière. Selon M. Trump, Tom Homan sera chargé de superviser toutes les expulsions d'étrangers en situation illégale vers leur pays d'origine. Véronica Villafane revient sur cette nomination et ses implications. Le récit avec Alexandrine Nolugnon.
Le chef des frontières désigné par Donald Trump, Tom Homan, possède plus de 30 ans d'expérience dans la gestion fédérale de l'immigration. Lors de la Convention nationale républicaine de cette année, Homan a affirmé que bien que tous les présidents aient promis de sécuriser la frontière, seul Trump avait tenu cet engagement.
Il a instauré la frontière la plus sécurisée de notre histoire. C'est un fait incontestable. Les données le prouvent et tenez-vous bien, il va le faire à nouveau.
Lors de sa campagne électorale, Trump s'est engagé à mener des déportations massives d'immigrés en situation irrégulière.
Dès ma prise de fonction, je mettrai en œuvre le programme de déportation le plus ambitieux jamais vu dans l'histoire des États-Unis.
Homan affirme que les déportations sont nécessaires pour corriger ce qu'il considère comme des erreurs de la politique migratoire de Joe Biden.
Trump va mettre un terme aux frontières ouvertes de Biden et Harris. Notre priorité sera d'arrêter l'afflux de drogue et de criminalité dans vos communautés.
Homan a occupé le poste de directeur par intérim du service de l'immigration et des douanes pendant la première administration Trump, supervisant une hausse de 40% des arrestations liées aux expulsions.
Les expulsions sont globalement en baisse car la frontière est désormais mieux contrôlée qu'elle ne l'a jamais été depuis 45 ans.
L'immigration clandestine a été une question cruciale pour de nombreux électeurs lors des élections de cette année. Selon l'analyste politique Francisco Rodriguez, Homan adopte une politique de tolérance zéro à ce sujet.
Donc, si vous êtes un criminel ici et que vous avez un enfant ou une famille ici, Homan a déclaré que vous pouvez partir avec vos enfants, avec votre conjoint. Personne ne dit que la famille sera séparée.
Daisy Bayes, ancienne législatrice de l'État de Floride, estime que l'intention de Trump de nommer Homan est un avertissement pour la communauté immigrée.
Si vous n'êtes pas citoyen ou résident permanent, vous n'avez aucune garantie de rester dans ce pays. Vous pourriez figurer sur la liste des personnes susceptibles d'être expulsées.
Mon message pour les millions d'immigrés en situation irrégulière, vous feriez mieux de commencer à faire vos valises maintenant.
Donald Trump a déclaré cette semaine qu'il prévoit de déclarer une urgence nationale sur la sécurité des frontières et d'utiliser l'armée pour procéder à l'expulsion massive des migrants sans papiers après sa prise de fonction en janvier. Mercredi, la commissaire à l'aménagement du territoire du Texas, Dawn Buckingham, a déclaré dans un communiqué qu'elle offrait à Donald Trump quelques 570 hectares de terres publiques à la frontière sud des États-Unis pour aider son administration à mettre en œuvre ses plans d'expulsion. Le terrain concerné est un ranch acquis dans le comté de Starr, le long du Rio Grande, frontière naturelle entre les États-Unis et le Mexique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24/24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Kledou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.